Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, Lucille Como, Philippe Chevillier et Grégoire Le Manager pour parler ensemble de Futur Parfait de Véronique Bizot chez Actes Sud, Les Invisibles d'Antoine Albertini chez J.C. Lattès et Les Derniers Jours du Commandant d'Alberto Barrera Tichka chez Gallimard. Boris Pino est également présent pour nous donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran Le Jardin d'artistes, l'impressionnisme américain à partir du 15 mai au cinéma. Nous ouvrons cette dispute avec Futur Parfait, titre ironique, comme on va le constater, de ce recueil de nouvelles de Véronique Bizot, publié chez Actes Sud. Véronique Bizot qui poursuit un chemin d'écriture discret mais régulièrement primé, alternant recueil de nouvelles et romans. En ce printemps, elle nous livre donc un recueil de 11 nouvelles, plutôt vénéneuses, dans lesquelles les personnages presque ordinaires, mais pas toujours, vont essayer de modifier le cours de leur vie. Évidemment, rien ne se passera tout à fait comme prévu et leur avenir sera loin d'être parfait. Stern, Tom et Belinda étaient grands, minces, relativement agréables à fréquenter et ils toussaient tous les deux. Ils entraient chez vous en toussant, ils en ressortaient en toussant et entre-temps, ils n'avaient pratiquement pas cessé de tousser. C'était une petite toux qu'ils avaient, sèche, discrète, qui durait moins d'une seconde et dont probablement ils n'avaient pas conscience. Personne n'osait bien entendu leur dire quoi que ce soit au sujet de cette toux, dont ils ne semblaient d'ailleurs pas s'inquiéter. Ils fumaient l'un et l'autre, mais pas tant que ça. Belinda plus que Tom, et moins que la plupart des gens du lotissement que nous connaissions, nous y compris. La toux des Pasternes pouvait s'entendre comme une façon personnelle qu'ils avaient de communiquer entre eux, une sorte de permanent dialogue spasmodique qu'ils entretenaient hors de toute conversation officielle. Elle pouvait aussi s'entendre comme un automatisme hérité d'une vieille bronchite commune et dont ils ne se débarrasseraient jamais. Ou encore, comme une manifestation d'angoisse, mais ils ne paraissaient pas angoissés. La façon dont ils s'asseyaient dans les canapés ou sur les sièges des jardins, conduisaient leur voiture décapotable en hélant au passage des connaissances, entretenaient leurs plantes et buvaient en fin d'après-midi leur dose de gin, avaient toutes les apparences de l'insouciance. Ils n'avaient pas d'enfants, pas d'animal, mais une grande maison jaune avec quantité de fenêtres et ils semblaient toujours disponibles pour un verre sans trop de glaçons. Ainsi s'ouvre la dernière, je crois. Oui, c'est ça, c'est la dernière nouvelle de ce recueil de nouvelles de Véronique Bizot, Futur Parfait. Elle s'appelle assez logiquement Les Sternes. Oui, c'est bien ça. Ou non, L'été des Sternes, plus exactement. Pas Sternes. Bon, je vais y arriver. Hein. Bon, mon esprit est toujours un peu confus ce jour, hein, pardonnez-moi. Lucille Como, pour commencer, c'est vous qui avez proposé ce livre au programme.
Oui, bah, on a très bien entendu en fait ce que dans ce que vous venez de lire, ce qui est très commun à ces 11 nouvelles qui sont de taille assez régulière. Il y en a une ou deux qui sont plus courtes que les autres, mais sinon il y a vraiment une régularité dans les dispositifs. C'est l'humour noir que moi je trouve très anglo-saxon et que j'aime beaucoup dans la nouvelle anglo-saxonne. Je vais peut-être juste lire une autre phrase la première phrase de celle qui précède. Jean est arrivé avec un gâteau, du moins a-t-il déclaré qu'il avait apporté un gâteau. Assez gros, lui semblait-il, pour nous tous. Après quoi il a souri, et souriant toujours, il s'est effondré sur les tomates de la salle à manger, où il est mort. Voilà, moi ça me fait vraiment beaucoup penser à des nouvelles anglaises, et notamment à Roald Dahl, à ces nouvelles pour adultes que j'aime beaucoup. Et ce rapport au rire et à la noirceur du rire est d'ailleurs tout à fait thématisé, c'est presque un sujet des nouvelles. On peut peut-être parler de la première qui inaugure le recueil, qui est à mon avis une merveille, qui met en scène un personnage de milliardaire qui s'appelle Shapiro, qui est devenu, comme nous le dit la première phrase, il n'y a pas de suspense, fou, à force de rire tout seul pendant 15 jours dans une chambre d'hôtel à Marseille, après s'être fait construire une villa absolument incroyable, dont la référence architecturale est deux tableaux, dont l'un s'appelle Cage et l'autre s'appelle,
je vais chercher Cage et Déroute.
Voilà, donc on peut imaginer ce que ça donne comme architecture. Et il y a une autre nouvelle également, pour clore sur la question de l'humour, dans laquelle il est question d'un homme qui est devenu comédien malgré lui, qui est enfermé sur une scène de théâtre, littéralement, puisque forcé par son propriétaire, tous les soirs, il doit faire rire les gens en leur parlant de son expérience propre qui est réelle et qui est qu'il a tué et qu'il a égorgé une femme sur son paillasson. Donc il y a ce rire noir qui est une forme de cohésion entre ces nouvelles. Il y a aussi, et on reste dans la couleur noire, un rapport au roman policier, je crois, dans tout, aux morts violentes. Il y a beaucoup de morts violentes, bon, j'en ai parlé. Il y a un château brûlé avec un père dedans, il y a un égorgement. Et puis des personnages un peu types, comme des représentants de commerce, qui sont vraiment typiquement des personnages de cette littérature de genre. Et d'ailleurs, il est question de séries noires et du goût de certains protagonistes pour les séries. Moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il y a une écriture très propre à la nouvelle, qui est une écriture extrêmement sophistiquée, très recherchée. Il y a des phrases qui font des pages de longueur. Il y a une syntaxe qui est vraiment ourlée et qui demande, moi je trouve qu'il exige un niveau de lecture vraiment assez élevé. On peut pas lire ça comme ça rapidement. Et en même temps, les nouvelles vont largement au-delà de juste des petits objets assez jolis, ciselés, précieux. Et il y a une nouvelle qui dit très bien cela. C'est la deuxième. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Peintre, qui est passionné puisque c'est son métier d'objet d'orfèvrerie et qui passe à plusieurs reprises devant une boutique, un antiquaire en Normandie et qui repère une cuillère. Alors, je sais plus exactement quel en est le fabricant, mais une cuillère qui vaut selon lui beaucoup. Et il est dit à propos de ça, Monsieur Peintre se fait la réflexion que les très rares moments de son existence dont il se souvienne sont ceux où, et alors qu'il ne s'attendait à rien, il a été surpris, comme il l'a donc été à la vue de cette cuillère dans une vitrine de la campagne normande. Ces moments qui se comptent sur les doigts d'une main constituent dans sa mémoire des entités à part, détachées de tout contexte précis, mais dont l'intensité demeure intacte. Et en fait, c'est exactement ce type d'intensité produit par des objets précieux, mais qui, malgré leur apparat, en restent des objets assez graves, assez lestés, que produit ces nouvelles.
Alors, quel effet produit sur Grégoire le Ménager par la lecture des nouvelles de Véronique Bizot ?
Un effet assez variable selon les nouvelles. C'est-à-dire qu'elle a indéniablement un ton et une forme d'humour. En particulier, les débuts de nouvelles sont souvent formidables. Moi, celle que je préfère peut-être, c'est celle de ce type que personne ne prend au sérieux alors qu'il a tué une femme et qu'il voudrait s'expliquer et qu'il aimerait bien être en prison à la place de l'innocent qui s'est retrouvé en prison à sa place. Première phrase, c'est « Connaîtriez-vous par hasard une phrase sérieuse ?» me demanda l'homme que je trouvais un peu après minuit assis sur le trottoir au pied d'un lampadaire. Et les premières phrases, de manière générale, elles nous accrochent comme ça, elles nous attrapent et il y a toujours quelque chose d'un peu tordu, d'un peu paradoxal qui fonctionne très bien. Et elle a ce ton-là, ça c'est sûr. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est que sa volonté de faire des mini-romans policiers, là, il y en a dans lesquels ça fonctionne et il y en a dans lesquels je trouve que ça fonctionne moins parce que c'est tellement ciselé, c'est tellement elliptique que et ça demande tellement d'efforts au lecteur. Moi, je veux bien faire des efforts, mais certaines fois, j'ai lu les nouvelles en essayant d'être attentif, en essayant de voir où était le secret sur lequel repose l'équilibre général et le malaise des personnages, parce qu'en général, il y a un malaise. Et plusieurs fois, je suis arrivé à la fin de la nouvelle en me disant j'ai dû passer à côté de quelque chose parce que là, je comprends pas très bien ce qu'elle a voulu me raconter. Et du coup, il y a une frustration quand même assez forte. Enfin, il faut mettre en garde nos auditeurs qui voudraient se précipiter sur ce livre. Ce n'est pas un livre d'une lecture facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'effectivement, elle a ce ton très très charmant, très assez amusé, même pour nous décrire des horreurs. Et puis, alors quand ça fonctionne, en revanche, c'est vrai que c'est assez merveilleux. Et il y en a au moins deux ou trois que je considère comme des petits bijoux. D'ailleurs, souvent, ce sont les plus courtes. Parce qu'elle n'a pas le temps de glisser aussi. Il y a une espèce un système de bifurcation narrative. Comme ça, elle passe d'un personnage à un autre. En plus, c'est assez compact parce que le clavier de son ordinateur ignore. Enfin, je sais pas, le bouton pour revenir à la ligne doit pas fonctionner, doit être bloqué. Donc souvent, on a des gros, gros paragraphes interminables sur 5, 6, 10 pages. C'est assez compact. Et là aussi, c'est un peu dommage parce que ça sert à rien, en fait, que ça soit aussi compact.
Une sensation quand même au lecteur, c'est Thomas Bernhard, il n'avait pas cette touche non plus visiblement, je ne compare pas hein, mais il y a un effet qui peut être produit physiquement de voir des plages pleines
mais là je trouve que ça, chez Thomas Bernhard je comprends pourquoi non. Il fait ça
la comparaison n'est que typographique.
Et en revanche, alors donc je termine comme sur une note vraiment positive, c'est que quand ça fonctionne c'est merveilleux, et il y en a une qui est géniale, c'est un couple qui a invité c'est un couple de citadins qui s'est installé à la campagne, je sais pas,
des écrivains
cultivaient leur potager là, des écrivains, des bobos qui passaient leur week-end à la campagne, qui ont décidé de s'installer à la campagne définitivement, et ils veulent être amis avec les gens du village, donc ils ont invité il y a quelques mois la bibliothécaire du village à dîner chez eux.
Et la prof de français aussi.
Et la prof de français. Et plusieurs mois après, ils constatent qu'on ne leur a jamais rendu l'invitation. Et donc, je crois que c'est la femme du couple qui se repasse la soirée comme ça, de manière un peu obsessionnelle. On n'est pas loin de la folie là aussi, parce qu'on est toujours au bord de la folie chez ces personnages, pour essayer de comprendre quel impair elle a commis et pourquoi cette bibliothécaire ne leur a jamais rendu leur invitation. Et
la nouvelle s'appelle, s'appelant évidemment à très bientôt.
Voilà. Et ça n'a l'air de rien du tout, mais c'est celle-ci, c'est un petit bijou, je trouve, effectivement.
Alors, troisième son par Philippe Chevillier.
Alors moi, je suis un peu partagé. D'abord, je trouve que ça se lit pas si difficilement que ça. Enfin, je trouve que on est quand même emporté par le style, par la forme, que ça distille une forme de charme discret, très sombre. Et il y a cet humour noir, mais c'est plus drôlatique que drôle. On n'est pas quand même mort de rire en les lisant. Je pense que ça a la qualité de ses défauts, c'est-à-dire que il y a quelque chose dans ces nouvelles qui sont de pas avoir tout à fait choisi, c'est-à-dire que parfois on est dans le conte un peu cruel, la fable, parfois on est plus dans la chronique. Vous parliez de peintre, à un moment donné on a une réflexion sur les gens qui sont obligés d'être saisis par les huissiers, il y a une dimension sociale qui se fait jour. Il y en a d'autres qui sont purement des contes. Alors l'été des paternes là, c'est vraiment pour moi tout à fait réussi, parce que c'est vrai que c'est très très court, très bref, incisif, on se pose pas de questions en le lisant, on ressent les choses et on est vraiment dans le conte un peu cruel, un peu anglais comme vous disiez, ça marche tout à fait. À d'autres moments, c'est vrai que moi je trouve que c'est même la première nouvelle que, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'elle est par moments ça fait trop fabriqué.
Donc sur le millionnaire qui se fait construire cette fameuse villa invivable.
Bon, alors après il y a la construction de la villa, il y a cette espèce de grand espace ou de prolongement en cuivre sur lequel la femme fait du patin à roulette. Alors c'est de l'humour, c'est de l'absurde, c'est du surréalisme, mais je m'en fiche un petit peu dans ces moments-là. Donc je préfère effectivement quand elles sont plus ramassé, et sur l'aspect thriller, parce qu'il y a aussi cet aspect thriller, donc ça part un petit peu dans tous les sens, mais à chaque fois je trouve que c'est un petit peu trop ténu, un peu trop, il y a ce charme, mais ça manque, on n'a pas l'impression quand on les lit qu'il y a quelque chose d'urgent, et moi j'aime bien, alors dans les nouvelles parce qu'elles sont courtes, qu'il y ait quelque chose d'urgent et qui me bouleverse, qui me renverse. Donc voilà, ma première impression, mais globalement c'est vrai qu'en fermant le livre, j'étais plutôt content de l'avoir lu et j'ai pas une vision négative, mais je suis un peu sur ma faim.
Alors je me situerais peut-être à la croisée de tous ces chemins, parce que j'entends à la fois les réserves, comme disait Grégoire Leménager tout à l'heure, des fois on finit une nouvelle et on se demande qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire, mais moi j'aime bien cette sensation aussi, une sorte de... Parce qu'il y en a une qui est peut-être... différente de toutes les autres, c'est celle du frère et cette sœur qui vont chez un concessionnaire automobile parce qu'ils ont quand même une voiture qui est très très vieille et la sœur se dit qu'il faudrait quand même en changer, le frère il voudrait pas et en très peu de pages là encore je crois il y a deux vies qui nous sont racontées à travers cette visite très banale, enfin même trois parce qu'il y a celle du concessionnaire automobile qui va se rajouter parce qu'il lui manque de dents et pourquoi est-ce qu'il lui manque de dents, c'est pas très vendeur évidemment d'avoir un sourire édenté. Elle est assez différente finalement des autres, mais il y a cette qualité, moi en tout cas, d'écriture. Il se trouve que je n'avais jamais lu de livre de Véronique Bizot, alors que j'ai trouvé ce recueil absolument formidable. J'ai pu lire que ses courts romans étaient très réussis, donc je vais me précipiter pour en lire. Vous en aviez déjà lu, Lucille Cobos ?
Non, pas du tout, ça m'a donné envie de lire.
J'ai envie de lire davantage de Véronique Bizot, parce que effectivement, écriture... Philippe Chevy disait c'est très simple à lire, Grégoire Leménager pas très simple, et je suis d'accord avec vous deux en fait.
Ça dépend des nouvelles, c'est-à-dire que quand elle est dans des formes, plus elle fait des nouvelles brèves, mieux c'est. Alors je sais pas ce que ça donne dans des romans, mais dès que les nouvelles dépassent 15 pages,
ah oui vous trouvez.
Oui, je trouve qu'on se perd.
On se perd un peu. Mais j'ai dû aimer me perdre dans ces futurs très imparfaits. Lucille Comeau.
Oui moi aussi, et justement c'est vraiment tout l'inverse. Moi celle qui me plaît le moins c'est justement celle dont vous avez parlé qui s'appelle « À très bientôt », non seulement parce qu'elle est probablement plus concentrée et plus cohérente dans sa narration, mais aussi, et ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais parce qu'elle est la moins étrange de toutes en fait, elle est beaucoup plus référencée. C'est-à-dire que le personnage qui est un personnage d'écrivain, bon on peut imaginer en plus parce qu'elle est à la première personne et que c'est un jeu féminin, ce qui est rare, que ça renvoie un peu à elle, il y a en effet le contexte sociologique qui est le contexte par lequel tous les frottements interviennent entre les personnages. Il y a une référence aux attentats parisiens. Donc du coup, on voit très bien comment ça se situe.
Mais elle est drôle quand même.
Oui, elle est drôle, mais c'est plus facile pour moi. Alors que les autres, elles ont un truc extrêmement étrange qui est qu'elles sont à peu près insituables dans un espace-temps. Notamment une qui s'appelle, j'imagine que c'est une que vous avez moins appréciée, mais qui s'appelle « L'homme qui apparut ». Qui se situe dans une sorte de décor de western. Alors, on imagine que c'est l'Amérique du Sud, mais il y a un Russe qui est là-dedans. Toute l'onomastique, en fait, tous les noms de personnages pointent vers des lieux différents. Et je finis juste là-dessus.
Non, mais c'était par rapport là-dessus. À ce que vous disiez sur les noms, juste un instant, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un grand plaisir des noms, enfin, y compris jusqu'à cette nouvelle où deux amis s'appellent Gilbert et Georges. Mais il y a ce Shapiro qui fait penser à... Enfin, voilà, les noms sont tout
et
à fait choisis.
Et qui nous perdent, d'ailleurs, le fait d'avoir choisi Gilbert et Georges dans un truc de discours rapporté, c'est évidemment pour nous perdre. Et voilà, donc, et justement, dans les nouvelles les plus étranges, surgissent parfois des noms et des objets qui pointent vers notre réalité. Par exemple, dans la première, moi, ce que je trouve extrêmement drôle, c'est que donc, ce fameux couple de Shapiro, qui sont quand même tous les deux un peu frappés là, dans leur maison, ils adorent pique-niquer, enfin, elle adore pique-niquer, et à un moment donné, il est question, alors qu'on ne sait pas du tout où ça se passe, à quelle époque, de poulet froid, bon, ça pourrait être à peu près n'importe où, n'importe quand, et aussi de mousse au chocolat casino. Et ça, je trouve ça drôle que d'un seul coup apparaissent des références comme ça, de la même manière que dans la fameuse nouvelle « L'homme qui a paru », qui pourrait vraiment se passer au 19e siècle dans l'Ouest américain. Bah, il y a un ordinateur à un moment donné, et puis il est question de quelqu'un qui doit écrire sur l'histoire des mathématiques.
Et on le sent pas arriver.
Cette espèce d'effilage de personnages, en effet, qui passent de l'un à l'autre, et celui qui a commencé, en fait, c'était pas lui, c'était l'autre qui était important. Je trouve ça, justement, au contraire, extrêmement jouissif. Les plus concentrés me plaisent moins, je les trouve plus classiques.
Un petit mot de Philippe Chevillier encore.
Ça revient un petit peu, moi, à ce que je voulais essayer de dire au début, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'art de ces nouvelles repose sur un contraste entre l'ordinaire et l'extraordinaire et le passage de l'un à l'autre. Et le plus réussi, c'est finalement quand le passage se fait bien. Il y en a d'autres qui basculent vraiment vers plus la chronique existentielle, comme celle d'ailleurs des vendeurs de voitures, qui est bien dans le genre. Mais là, on a moins d'extraordinaire et ça marche un peu moins bien. Et puis d'autres qui se veulent, pour moi, plus appuyés justement dans l'extraordinaire ou dans le surréel, et qui parfois paraissent un peu fabriqués. Quand elle arrive à maintenir les deux et en peu de mots, ce qu'on disait sur des nouvelles plus courtes, ça fonctionne.
Bon, Nous sommes avec Lucille Comeau très clients de toutes les nouvelles, de toutes leurs tailles. Puis il y a des récurrences aussi, je pense à la façon dont les orchidées sont quand même une manifestation du déclin de nos sociétés. Ça ne va plus du tout quand tout le monde peut avoir des orchidées pendant très longtemps. Voilà, quelques éléments en tout cas de nos réflexions sur Futur Parfait de Véronique Bizot, publié chez Actes Sud. Alors, j'ai commencé par celui-ci parce qu'on va suivre avec deux livres très politiques et très différents. L'un sur la Corse, signé Antoine Albertini. L'autre sur le Venezuela avec Alberto Barrera Tischka.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Et nous poursuivons avec Les Invisibles d'Antoine Albertini, publié chez Jean-Claude Lattès. J.C. Lattès, je suis toujours Jean-Claude ou J.C. Bon. Son sous-titre, Une enquête en Corse, peut nous faire penser à L'Enquête Corse, l'hilarante bande dessinée de Pétillon, mais qui avait d'ailleurs quand même aussi valeur sociologique. Mais ici, le rédacteur en chef adjoint de Corse Matin, qu'il est, Antoine Albertini, également correspondant du journal Le Monde, a mené une enquête en même temps qu'il a fait un travail d'historien sur Les Invisibles, donc ces ouvriers agricoles sans papier venus pour l'essentiel du monde arabe et ici plus particulièrement du Maroc et dont la vie ne semble pas valoir grand-chose. Pour preuve, le mort qui ouvre le livre et dont Antoine Albertini avait croisé la route quelques jours avant son assassinat. Une fleur semble avoir éclos à l'endroit où aurait dû se trouver sa bouche. Une orchidée aux larges pétales de chair retroussés sur la béance où luisent de minuscules éclats de nacre. Les débris de dents, les fragments de mâchoire pulvérisés par l'impact. La balle, une météorite de plomb durcie à l'antimoine, une bonne saloperie conçue et usinée pour perforer le cuir épais des sangliers, a été propulsée du canon d'un fusil de chasse à une vitesse initiale de 430 mètres par seconde environ, a pénétré par le côté arrière droit du cou, en y creusant un trou à peine plus large, assez large pour y glisser un doigt, s'est frayé un chemin à travers les tissus musculaires, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les os, a sectionné la carotide et la veine jugulaire droite interne et, à sa sortie, emporté la moitié inférieure du visage en y laissant un orifice assez large pour y enfoncer le poing sans en toucher les bords. L'homme est étendu sur le dos, bras en croix et jambes écartées, au milieu d'un chemin de campagne qu'on appelle ici la route de l'ancienne voie ferrée, car elle longe le tracé du vieux chemin de fer abandonné peu avant la guerre. Ce corps reproduit si fidèlement l'idée de cadavre qu'on pourrait croire à une farce macabre, un tour de cochon joué par les garnements du coin à l'aide d'un épouvantail tiré d'une grange. C'est le tout début de ce livre d'Antoine Albertini, Les Invisibles, une enquête en Corse, et c'est Grégoire Leménager qui commence à nous en parler.
Oui, alors ça n'est pas du tout un roman, hein. Il n'y a pas d'élément de fiction là-dedans. Est-ce que c'est de la littérature? Ça pourrait en être quand même. Il me semble que la première page que vous venez de lire montre qu'il y a... style, enfin, il est vraiment une plume, ce garçon-là. Cette plume suffirait elle-même à autoporter le livre, je dirais, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il a aussi quelque chose à nous raconter. Et le livre fonctionne un peu à la manière d'un polar. C'est-à-dire que ça s'ouvre sur ce cadavre en piteux état, là. Mmh. Et ensuite, on va suivre l'enquête. Le type s'est fait descendre le 16 novembre 2009, hein, ouais, en Corse. Et Albertini va reconstituer toute l'enquête des gendarmes. Donc, qui mettent un certain temps à établir l'identité du mort, parce que c'est un invisible. Donc, il s'appelle El Hassan Msarati, marocain, 40 ans. Et il était ouvrier agricole dans la plaine orientale en Corse. Et donc, Albert, le fil narratif principal du livre, c'est celui du suspense lié à l'enquête. Parce que
toutes les hypothèses sont passées en revue par les gendarmes. Est-ce que c'était un crime raciste, pur et simple? Est-ce que c'était un meurtre mafieux? Est-ce que c'est un mari jaloux? Parce que naturellement, autour de ce personnage dont on essaie de reconstituer l'identité, il y a beaucoup de légendes qui se mettent à fleurir. Les uns disent que c'était un grand séducteur, les autres que c'était un trafiquant de drogue. Donc, est-ce que c'était un règlement de compte? Est-ce que c'était un règlement de compte entre immigrés aussi? Parce qu'Albertini a le bon goût de ne pas faire passer tous ces damnés de la terre là pour des saints, loin de là. Et on est vraiment dans un univers très sauvage. Ou est-ce que c'était un patron qui a voulu régler son compte à cet employé agricole? D'autant plus que 15 jours avant, effectivement, Antoine Albertini lui-même l'avait convaincu de parler face caméra pour évoquer ses conditions de travail.
Pas face caméra, justement.
Il travaillait pour la télé.
Pour que son visage soit masqué, voilà. Parce que sinon, voilà. Il prendrait une balle dans la tête.
Et donc, le fil narratif principal, c'est ça. C'est l'enquête pour reconstituer l'identité de ce type et essayer de comprendre, et il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés successivement, pour comprendre qui l'a tué et pourquoi. Et au passage, Albertini intègre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, il situe ce fait divers dans un contexte historique, sociologique, géographique. Et au passage, moi, ça m'a vraiment passionné. Il raconte 70 ans d'histoire de la Corse depuis la fin de la guerre. Il nous raconte de manière assez précise aussi et très intéressante l'arrivée des pieds noirs après la guerre d'Algérie. En expliquant qu'ils ont gardé des réflexes de colons.
Vous
n'avez
pas du tout comprendre de ce qui s'était passé en Algérie pour reproduire dans la plaine.
Voilà, c'est le point de vue d'Albertini.
C'est la théorie et la thèse défendue.
Il explique qu'ils ont reproduit des réflexes de colons, ce qui, sous la plume d'un Corse, n'est jamais un compliment. Et il nous raconte l'émergence du mouvement indépendantiste. Il nous parle évidemment des flambées racistes qui peuvent se produire en Corse, en essayant aussi de les circonscrire, de dire pourquoi elles se produisent, dans quelles conditions et tout ça. Et autour de la destinée de ce malheureux Marocain, il nous raconte beaucoup d'autres histoires sur ce qu'il appelle les invisibles. Donc, ce sont ces ouvriers agricoles qui viennent du Maghreb, qui sont traités comme des ragondins là dans les plantations, qui sont exploités. Et il nous renvoie à la balle en nous disant que on est bien content nous aussi de profiter des fruits de ces exploitations agricoles. Donc, il montre bien qu'il a un sens de la complexité des choses qui me semble assez remarquable. Et tout ça servi par un style très efficace du début à la fin.
Philippe Chevillier, premier regard sur Les Invisibles d'Antoine Albertini.
Alors, je suis assez d'accord parce qu'on a vraiment un livre assez ambitieux dans la mesure où c'est vrai que vous racontiez ce côté thriller, mais c'est d'abord la découverte de choses qu'on sait déjà un petit peu, mais qu'on voit vraiment là, noir sur blanc, de ces clandestins qui ne datent pas d'hier et qui se retrouvent en situation d'esclavage. On raconte vraiment les bungalows ou les endroits où vraiment ils dorment dans la misère. Tout ça est passionnant et puis on a tout d'un coup cette impression qu'il y a un palimpseste dans ce livre parce que avec l'histoire, tout d'un coup, on se retrouve à être avec Albertini, arrive à faire bouger toutes ces plaques tectoniques qui sont à la fois les rapatriés, les Corses tradis avec les indépendantistes, les immigrés, et à chaque fois, ce que je trouve assez juste, c'est que comme il fait dans une enquête policière où il y a toutes les hypothèses, il arrive à faire en sorte que ça soit jamais une vision manichéenne, et on a à chaque fois un petit peu les contradictions. Par exemple, quand il parle de ses propriétaires agricoles, puisque c'est aussi une histoire économique de l'agriculture, quand ce qu'il nous raconte, ses propriétaires agricoles qui seraient donc des esclavagistes, il prend bien le soin de dire tous les propriétaires sont pas comme ça, et donc c'est intéressant d'avoir ce recul. Et puis il y a quelque chose de fort aussi, c'est les descriptions de ces personnages. C'est quand même une vision assez sombre de l'humanité qui nous montre, parce que tous les personnages sont un peu ambigus avec leur renoncement, parfois leur lâcheté. Et surtout, ce qui est terrifiant, c'est de voir, et il y a des longs passages qui sont consacrés à cela dans le livre, c'est de voir comment chez ces invisibles, ceux qui ont mieux réussi que d'autres reproduisent ensuite une forme d'oppression, voire d'esclavage sur ceux qui viennent d'arriver. Donc cette vision pessimiste de la de, de, de la Corse, mais au-delà du monde, est quand même assez captivante. Et après, bon, alors dans l'écriture, je trouve qu'effectivement c'est plutôt bien écrit. On est, alors ce terme de narrative fiction, j'aime bien, c'est encore ça fait partie de ces étiquettes qui sont. Mais c'est vrai qu'on est on n'est pas loin de la littérature, mais on n'y est pas. Je crois qu'on peut-être que cette exposition de narrative fiction est bonne pour ça, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la littérature, mais on est dans une belle écriture et un récit qui a une force et qui nous apprend des choses fortes.
Voilà. Lucille Como, votre sentiment solide d'Antoine Albertini.
Ben, je vais juste rebondir justement sur la question de l'écriture, parce que moi, ce que je trouve dommage dans le livre, c'est que il est extrêmement intéressant, mais il fait totalement l'économie, à mon avis, d'une réflexion interne sur sa propre manière de raconter. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un livre qui se donne en effet comme de la non-fiction, ce qui en France est quand même assez rarement bien fait entre guillemets. Mm-hmm. Les récits journalistiques qui sont des récits. Et là, je trouve que à la fois un petit peu sur le fond, je vais y revenir, mais aussi sur la forme, il y a assez peu de remise en question à l'intérieur même du livre des mécanismes de comment on raconte une histoire pareille. Et c'est dommage, d'autant plus que ça affleure un tout petit peu. Je pense par exemple à ces moments où le narrateur admet que les choses sont tellement incroyables, tout ce qu'il entend, toutes ces histoires individuelles sont tellement incroyables que ça pourrait être de la fiction. Par exemple, il y a un chapitre à la fin qui est consacré à un autre invisible trouvé par quelqu'un sur le bord d'une route. Donc ce quelqu'un a extrêmement pitié de lui, le prend chez lui et se rend compte qu'il était un esclave, en fait, littéralement un esclave chez une matrone, il appelle comme ça Corse, et cette matrone le réclame à grands cris tout le temps, en le menaçant, parce qu'elle veut son bien, quoi, ce qu'elle considère comme son bien, et le type en question finit par aller la voir avec un revolver et lui mettre sur sa tempe en disant « maintenant tu me laisses tranquille ». Et ce genre de chapitre amènerait assez opportunément une forme de réflexion sur ce que c'est que raconter ça, alors que ce n'est précisément pas de la fiction. Bon, alors après, sur le fond, je suis d'accord, moi ce qui m'a vraiment passionné, c'est ce que Grégoire décrivait comme en passant, c'est-à-dire tous les passages d'informations historiques sur notamment tous ces rapports de domination extrêmement changeants entre la population arabe immigrée et la population corse. Je trouve ça absolument passionnant. Et on sent vraiment un esprit de révolte qui est authentique chez l'auteur et qui, évidemment, innerve, à mon avis, l'écriture et qui fait que l'écriture est aussi efficace. Après, il y a autre chose qui me gêne un petit peu d'un point de vue presque politique, c'est ce qu'il fait de ces invisibles. Parce que ça commence en effet comme une enquête sur un individu, donc on se dit, bon, le titre étant ce qu'il est, on va essayer de rendre visible quelqu'un qui est ce type qui s'appelle El Hassan. Et de fait, le livre, on ne choisit pas vraiment de ce personnage. Il échoue un peu à en faire un protagoniste. Il se perd un peu dans plein d'histoires. Je pense qu'il est tellement plein, Albertini, tellement plein de ses récits qu'il a sûrement écrit depuis des années, que l'enthousiasme va un peu à l'encontre du projet initial et que du coup, politiquement, ça se retourne presque contre l'intention de rendre visible, de donner une identité, de faire de quelqu'un un individu. Là, de fait, il y a une formule qui revient sans cesse dans le livre, c'est toujours comme ça. Enfin, j'en ai relevé, c'est toujours la même chose. Et le livre, au lieu de un peu contredire ça, finit par nous donner cette impression que tous ces types sont les mêmes. Et là, ça me gêne un petit peu.
Ben d'accord, Philippe Chevillier.
Je suis pas d'accord parce que je pense que justement, c'est le titre Les Invisibles, c'est-à-dire qu'il essaye. Il essaye et à chaque fois, les personnages lui échappent parce que pour des raisons qui sont souvent des raisons justement de. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont menacés, parce que. Mais le personnage principal, il y a plusieurs portraits, il essaye de tourner autour, mais c'est des portraits contradictoires. Il y a le qu'en dira-t-on. Et puis les personnages qu'il veut essayer de saisir, ils se cachent, ils veulent pas parler. Et justement, ça fait partie du pessimisme terrifiant du livre, de dire que ces invisibles, on ne peut pas les amener à être visibles, que c'est pas une tournure de style, c'est ce qu'ils sont. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait aussi la force du livre, que ces personnages échappent, qu'ils n'y arrivent pas, et qu'on ne trouve pas la solution à l'enquête à la fin. Il y a vraiment cette dimension-là, moi, qui m'a touché.
Invisible, je donne la parole à Grégoire Leménager, invisible par nécessité, parce que une des choses, alors ça fait partie des généralités, mais qui englobe tous les invisibles, c'est de n'avoir évidemment sur soi aucun papier, de quelque nature qu'il soit, qui puisse permettre d'identifier ne serait-ce que le pays de provenance, parce que évidemment, il y a toujours, c'est le bureau des légendes à l'échelle de la Corse, il faut savoir raconter qu'on vient soit de Syrie, qu'on vient de ci, qu'on vient de là, mais surtout ne pas pouvoir avoir quelques documents qui puissent déterminer quoi que ce soit. Donc, rester invisible, Grégoire Leménager.
Oui, mais moi, c'est ça que je trouve assez passionnant dans le livre aussi. Et c'est ça qui, pour moi, le rapproche vraiment d'une littérature. C'est pas seulement parce que Albertini écrit bien, enfin, pas seulement parce qu'il a un style efficace et puissant et chargé. C'est parce que il nous montre bien comment, autour de ces personnages, il y a tout le temps des fictions qui prolifèrent. Et lui, il choisit de s'en tenir avec une vraie forme de modestie. Il choisit de s'en tenir à ce qu'il arrive à dégager d'à peu près sûr, d'à peu près réel. En fait, son boulot, c'est de faire le tri entre toutes ces fictions en permanence. Et cette bagarre permanente entre les fictions et ce qu'il essaye de dégager comme réalité me semble vraiment soutenir sa plume, soutenir le livre tout le temps. Ensuite, il y a une deuxième chose qui pour moi en fait plus qu'un simple récit journalistique. Et ça, c'est assez subtilement dosé, parce qu'il aurait pu en faire plus là-dessus, et on lui en aurait pas voulu d'ailleurs, mais il en fait pas plus, c'est sur son investissement personnel, son rapport personnel à cette histoire. C'est-à-dire qu'il le suggère au début qu'effectivement, il a croisé ce malheureux garçon quelques jours avant sa mort, et puis à la fin, il y revient dans l'épilogue, en deux pages, il en fait pas beaucoup, et là, on comprend pourquoi cette affaire l'a obsédé à ce point, pourquoi il voulait pas seulement faire un livre, il se sentait en dette vis-à-vis de ce type. Donc il y a ça. Et puis enfin, il y a une dernière dimension, et là je trouve c'est aussi à mettre à son crédit, je trouve, celui d'une forme d'honnêteté littéraire, c'est que ce sujet éminemment politique et qui nous concerne tous, qui est le sujet qui est lié à la situation postcoloniale dans laquelle on est, quoi, avec des immigrés, des sans-papiers, qui sont confrontés à une police qui essaye de les archiver, de les classer, de les fliquer, et qui en fait les contraint à mentir encore plus sur leurs identités, et à se dissimuler encore plus, à être encore plus invisibles. Donc c'est un sujet qui concerne tout notre pays, toute notre société. Lui, il se contente de... Il pourrait extrapoler là-dessus, essayer de généraliser. Il ne le fait pas. Il reste sur son secteur corse.
Ouais, alors,
mais pour nous, lecteurs, ça réveille beaucoup de questions qui sont pas mal dans l'air en ce moment, quand même.
Alors, effectivement, il en pose beaucoup des questions, je rejoins Lucille Colombo sur le fait qu'il y a une généralisation de ces individus-là particulier dans ce paysage-là et cette île-là en particulier, certes, qui est lié au contexte particulier, et c'est ça qui m'a passionné aussi, c'est cette histoire. Mais c'est vrai que en même temps, ce que fait Albertini, c'est on posait la question, on avait parlé au moment où Yvan Jablocka avait sorti Laetitia, ce livre autour de la mort de cette jeune femme, et la question de la place de l'auteur et qui s'incluait dans ce livre. Peut-être que moi, je suis d'accord avec vous. C'est compliqué. J'aurais aimé là que Antoine Albertini le fasse davantage, soit plus à la première personne. Là où moi, ça me gênait plutôt parfois chez Yvan Jablocka. Enfin, on n'est jamais content du livre qu'on a peut-être entre les mains, la critique est facile. Lucille Comeau.
Moi, ça me gêne pas de pas le percevoir dans la mesure. Enfin, ça me gêne à la fin, en fait, pour tout dire, parce que je trouve qu'il y a une entrée en force du jeu, entre guillemets, qui se situe tout à la fin sous une forme de morale, justement, sur ce dont vous parlez, sur l'immigration, où en gros le propos est de nous dire, voyez, vous qui vous scandalisez et criez au crime quand vous voyez à la télévision l'immigration syrienne et le malheur des gens qui sont porte de la chapelle, regardez dans vos cuisines, regardez qui travaille, regardez qui fait votre vin rosé de l'été. Et je trouve ça un petit peu malvenu. Pas sur le fond, pourquoi pas, quoi que je trouve ça un petit peu primaire et qu'il y a la petite tendance de la mise en concurrence des immigrations que je trouve un petit peu malsaine, mais sur la forme assez bizarre, justement, l'espèce d'emportement à la fin, on sent que bon, voilà, il faut faire venir ce discours-là et il faut se faire entrer dans une posture moralisatrice sur la question, alors que pendant tout le livre, justement, il a essayé d'alterner les points de vue. Je trouve ça bizarre, que ça m'a gêné vraiment la fin.
Je voulais dire un mot encore, Philippe Chevillier, pour finir, vraiment.
Pas revenir là-dessus, effectivement, je comprends la question que vous posiez, mais plus globalement, je trouve que il y a tellement de simplifications sur la Corse, en général, qu'il est réussi à faire un livre qui soit en même temps extrêmement au vitriol sur beaucoup de choses et en même temps ne pas être simpliste.
Oui, très différent de tout ce qu'on peut lire.
C'est quand même
un travail à souligner. Et d'ailleurs, quand même, souligner sur les réseaux sociaux.
Boris Pinault. Un mot, oui, de Gaspard Ganser, qui recommande le livre d'Antoine Albertini, Portrait d'un homme sans visage, El Hassan Sarati. Donc, radiographie de la Corse, analyse sans concession de la situation des immigrés, un livre qui ouvre les yeux.
Et puis dire aussi, enfin, pour conclure, que J.C. Lattès, hein, on voit dans le rabat de couverture, visiblement c'est l'inauguration de d'une collection,
oui, oui, je crois que
Les Invisibles.
Collection,
les auteurs de la collection Les Invisibles ont mené des enquêtes rigoureuses sur ces 800 homicides environ commis en France chaque année. Et donc, ça ouvre une nouvelle collection chez J.C. Lattès avec la question « Pourquoi a-t-on tué ?» Donc on surveillera, et c'est une initiative en tout cas intéressante. Que le livre d'Antoine Albertini, Les Invisibles, une enquête en Corse, nous donne l'occasion de saluer.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Politique, encore au sommet de cette dispute littéraire avec le livre d'Alberto Maratichka, Les derniers jours du commandant. Le commandant en question, c'est le commandant Hugo Chavez, dont l'écrivain et journaliste a co-signé une biographie très remarquée. Il l'a co-signé avec Christina Marcano. Le titre, Les derniers jours du commandant, nous dit à peu près de quoi il s'agit, même si le titre original c'est La patrie ou la mort. Ce roman paraît chez Gallimard dans une traduction de Robert Amutio. Béatrice avait toujours dit qu'il n'y avait qu'une seule façon de résoudre les problèmes du pays. Elle portait le bout de son index au milieu du front et prononçait le jugement « une balle ». Une seule balle, ici. Elle pensait que la grande erreur de l'histoire récente avait été de ne pas descendre Chavez à temps. Au moment de sa tentative de coup d'État en 1992, ou quand il y avait eu une tentative de coup d'État contre lui en 2002. « Ces erreurs se payent », avait-elle coutume de dire, tapotant légèrement son doigt contre son front. Sanabria détestait entendre son épouse parler de cette manière. La maladie du président avait fait remonter à la surface ce qu'il y avait de pire en Béatrice. Un après-midi, lorsque tout avait commencé, il avait essayé d'en parler avec elle, mais ça avait été impossible. Ils étaient en train de lire ensemble le journal, c'était le samedi 23 juillet, et Chavez avait fait depuis Cuba un premier rapport sur la progression de son traitement. « Je dois vous informer que je suis arrivé au terme du premier cycle de chimiothérapie auquel j'ai été soumis au cours de ces derniers jours. » Ce cycle s'est fini de manière satisfaisante. C'est comme un bombardement, moi je l'appelle la bombe atomique contre le mal. L'article était accompagné d'une photo où le dirigeant apparaissait affublé d'une chemise rouge, entouré de plusieurs hauts fonctionnaires. Béatrice immédiatement plissa les lèvres et dit que tout était très bizarre. Ensuite, elle mentionna une prétendue version clinique qui expliquait tout le secret officiel par le fait que la tumeur cancéreuse se trouvait dans le cul du chef de l'État. Philippe Chevillé va nous parler de ce livre, pour commencer, Les derniers jours du commandant, chez Gallimard.
Alors oui, Béatrice est un des personnages, ils sont nombreux dans ce livre, qui n'aime pas du tout Chavez.
Non, je crois qu'on l'a compris vaguement.
On l'a compris. Alors évidemment, c'est pas du tout la chronique des derniers de l'agonie de Chavez, hein, qui s'étale entre juin 2011 et puis mars 2013. C'est la toile de fond. Hein, on est à Caracas et on a une chronique là pour le coup de plusieurs personnages, plusieurs petits groupes, plusieurs petites tribus à Caracas qui vont vivre avec ça. En toile de fond, et il nous raconte le Caracas partagé entre les espoirs plus ou moins déçus de révolution, la violence. On a donc des personnages assez typés, mais qui sont parfois un peu partagés dans leur vision. Il y a le sage cancérologue qui a sa femme Béatrice. Il a un neveu qui lui est très proche du pouvoir. Alors ça commence un peu comme un roman policier. Il voudrait lui donner un portable ou il a recueilli des choses, il faudrait qu'il le cache. On pense que ça va évoluer vers ça et pas du tout. On passe d'une histoire à l'autre comme ça. L'histoire par exemple du journaliste qui n'a plus de travail, qui veut écrire un roman sur Chavez et qui occupe le logement d'une femme qui est partie en Amérique et qui revient pour récupérer son logement. Elle ne sait pas comment elle va le récupérer. Il y a une mère aussi célibataire, complètement paranoïaque avec sa fille qui pense qu'il va y avoir qu'elles vont se faire descendre dans la rue. Il y a une histoire d'amour entre deux petits enfants. Il y a plein de choses comme ça qui sont très romanesques. On rentre très bien dans cette histoire. On la suit. C'est écrit avec vivacité, mais c'est pas au sens du roman choral qui essaierait de nous faire un puzzle sur le. C'est plus profond que ça. Moi, je trouve qu'il y a une vraie atmosphère qui nous est décrite et avec un certain recul. Donc il y a cette période vécue par Caracas et par les Vénézuéliens qui est très bien racontée sans que ce soit pour le coup trop caricatural, parce qu'on a même des personnages qui sont proches Chavez dans l'histoire. C'est pas une caricature. Et surtout, moi ce que je trouve assez fort, c'est qu'au-delà de ce côté romanesque, encore une fois qui se lit très bien, c'est qu'on a deux choses qui sont assez fulgurantes dans le livre. La première, c'est nous raconter comment Chavez, à la fin de sa vie, devient non plus le combattant, mais le saint. C'est-à-dire que c'est vraiment, tout d'un coup, ça, c'est extrêmement bien raconté. Et la deuxième chose que je trouve très forte, c'est la réflexion sur le charisme, d'où vient le charisme, et comment la révolution peut se résumer, d'une certaine façon, à l'éloquence. Et il y a ce passage, simplement cette évocation de Chavez qui, entre deux chimiothérapies, va faire un discours de 9 heures. Et évidemment, on se dit, après, comment gouverner par l'éloquence. Et après, évidemment, on pense à la fascination de Jean-Luc Mélenchon pour Chavez et cette éloquence qu'on trouve aussi chez lui. C'est assez fascinant donc de le mettre en parallèle, sachant que tout ça est quand même... C'est un roman, que c'est pas, alors pour le coup, c'est pas une narrative fiction, c'est vraiment un roman que je trouve assez habilement construit et où il y a du fond.
Oui, en rappelant que Barry Artichat avait donc fait cette biographie de Hugo Chavez et que donc cette chronologie et ce qui se passe au Venezuela pendant ces mois-là, il la connaît sur le bout des doigts. Lucille Comeau.
Oui, alors moi j'ai éprouvé un intérêt assez croissant pour le livre, qui tient probablement paradoxalement à la frustration qui l'engendre. Vous en parliez un petit peu, Philippe, parce que c'est un roman qui est tout à fait incomplet si on considère le pacte de lecture qu'il instaure au départ, puisqu'en effet ça commence quand même comme un roman choral et on nous promet dans des chutes, parce que c'est un roman à chutes, hein, tous les chapitres sont extrêmement bien construits, on nous promet des rencontres entre ces personnages. Évidemment, on attend la rencontre entre le journaliste vénézuélien et la journaliste américaine, entre le fameux neveu et puis peut-être la journaliste américaine aussi. Et de fait, très peu de rencontres vont advenir, à part celle des enfants, qui est probablement la plus intéressante, et la piste du roman d'espionnage, parce qu'il y a ça, en effet, avec cette histoire de téléphone à cacher, les Cubains, la menace cubaine derrière, ça devient assez drôle d'ailleurs, parce qu'on abandonne assez vite cette piste, et de fait, le roman finit par un point d'interrogation, donc on n'est vraiment pas servi en termes de dénouement. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, plus que le caractère documentaire, parce que de fait, il y en a un du roman, c'est, vous parliez du charisme, vraiment ce que fait... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une théorie sur ce que fait le politique en contexte totalitaire, parce que de fait il décrit ça, sur l'individu, mais au plus profond, c'est-à-dire que tout Vénézuélien et tous les personnages du roman éprouvent dans leur chair ce que c'est que l'agonie de Chavez, parce que, comme le dit le slogan, et d'ailleurs il en est question à un moment donné, tuer Chavez, c'est le slogan de la dernière campagne présidentielle de Chavez.
Nous sommes tous tués, parce qu'à la radio, tuer Chavez, ça pourrait s'entendre.
Et Chavez, chacun est Chavez, vous êtes Chavez, tout le monde est Chavez. Et de fait, tout le monde éprouve dans son corps, dans son intimité, dans l'intimité du couple, entre Béatrice et Miguel, dans l'intimité de la famille, ça détruit les relations entre les générations, entre les frères et les frères, et les frères et les sœurs. Et aussi au niveau de la sexualité même. Par exemple, il y a un moment où la journaliste américaine se retrouve en situation de potentiellement couché avec un couple de Vénézuéliens, et on lui apprend le lendemain qu'en fait il s'est rien passé, et le type lui dit ben non, mais en fait tu ne peux pas, parce que tu n'es pas en fait tu n'es pas Chavez d'une certaine manière. Il y a quelque chose de ça. Donc ça m'a intéressé, parce que c'est comme prendre au niveau le plus littéral l'expression le cancer qui ronge une société. C'est de fait un cancer qui ronge littéralement les identités, les individus et les familles. Après, sur le côté documentaire, ce que je trouve dommage, c'est que là on a une vraie théorie politique politique qui se fait dans la fiction et dans la forme, et se rajoutent des dialogues, notamment entre les deux frères, entre Antonio et Miguel, qui sont pour le coup, enfin moi ça m'intéresse pas beaucoup, sur la question de la révolution et de la révolution bolivarienne, de ce que c'est qu'être de gauche, qui sont du coup un peu superflus, parce qu'on comprend très bien par ailleurs ce qu'il veut nous dire, la multitude des points de vue, etc. Donc j'ai plutôt aimé le roman, mais je trouve qu'il est presque trop long, enfin il y a trop de choses dedans.
Bon, Les derniers jours du commandant, c'est le titre de ce le livre paru chez Gallimard, Grégoire le Ménager.
Je suis assez d'accord avec tout ça. C'est vrai que la personnalité de Chavez imprègne le livre, imprègne chaque pore de chaque personnage. Enfin, c'est aussi parce qu'il est tout le temps à la télévision. Enfin, on dit si le génie de Chavez c'était d'être un bon producteur de télé finalement, il y a ça. Et son discours, il ne dure pas 9 heures, il dure 9h28. Enfin, même Georgescu, il n'arriverait pas à faire ça 9h28. Je pense.
Ah, faudrait pas le tenter, hein, notre camarade Florent Georgescu qu'on salue.
Et voilà, et donc il nous. Bon, on sent que l'auteur a une sympathie assez modérée pour Chavez, même si ici ou là, il y a un personnage qui dit, tu te rends compte, Chavez, il nous a fait prendre conscience que on n'était pas rien. Enfin bon, donc c'est quand même, il nous montre quand même Chavez comme le nom d'une maladie, quoi. Il y a vraiment ça. Il nous montre à travers tous ces. L'éclatement narratif est intéressant pour ça. Enfin, ce côté shortcuts, là, c'est peut-être ce qui m'a le plus séduit dans ce livre. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez virtuose dans sa manière d'entrelacer, mais jamais complètement, les destins de tous ces personnages. C'est qu'il nous montre, à travers ce choix formel, une société qui est atomisée et dans laquelle, néanmoins, les personnages continuent à avoir des liens puisqu'ils appartiennent quand même à cette société, quoi. Et ça fonctionne assez bien. Et il a une plume très fluide. Je trouve que même les dialogues politiques qui pourraient être un peu pesants, finalement, il n'y en a pas tant que ça et ça passe assez vite. C'est assez bien intégré dans le flux narratif et il nous montre une société très très violente où il y a deux homicides par heure. Et puis il nous raconte quand même dans le rapport à la propriété privée, il y a quand même une scène absolument géniale. C'est cette dame qui vivait à l'étranger, qui louait son appartement, qui souhaite récupérer son appartement puisqu'elle en est propriétaire. Et en fait, le seul moyen qu'elle a de se débarrasser de ses locataires, qui par ailleurs ont l'air d'être des gens extrêmement sympathiques, c'est d'engager trois filles qui viennent faire une occupation de l'appartement, qui cohabitent donc avec les locataires actuels jusqu'à leur rendre la vie tellement impossible qu'ils sont obligés de partir, quoi. On voit qu'il y a un rapport à la loi aussi qui est assez exotique pour nous.
Oui, trois filles du parti en plus. Enfin,
oui, mais le côté exotique, mais c'est vrai qu'elle a. J'avais pas vraiment eu l'occasion de lire des choses assez précises comme ça sur Hugo Chavez, qui est pas la figure qui m'a le plus passionné, mais je la trouve assez passionnante dans ce livre-ci. Et c'est vrai qu'on a, on va dire, on est plus proche, culturellement, géographiquement, des dictatures ou des régimes totalitaires de l'Europe de l'Est plutôt. Et du coup, il y a un côté dictature au soleil qui est assez particulier de latino-américain. Alors, il y a d'autres, hélas, d'autres pays que soit le Chili ou d'autres dont on a pu lire des romans qui nous donnaient cet esprit-là. Il y a quelque chose de très particulier dans ce régime de fascination et de terreur, parce que c'est quand même ça qui est lié dans ce livre-là, la figure de Chavez. Vous avez été convaincu, Philippe Chevillier. Oui. Ça y est. Tuer Chavez, Philippe Chevillier.
Non, il ne s'agit pas seulement de Chavez. Non, mais c'est vrai que je trouve que ce que vous disiez sur les shortcuts, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive vraiment à avoir une vision et ce que vous disiez aussi de l'intérieur.
Un dernier mot, Lucille Comeau.
Je voulais ajouter qu'il y avait aussi, parce que comme il a vraiment un art romanesque quand même assez fort, et je trouve que l'histoire, vous en parliez un petit peu, d'amour entre les deux enfants, qui est d'ailleurs une forme presque de, à la fin on a l'impression que c'est eux qui apportent la lumière et que et une forme de liberté, parce que je raconte pas à la fin, mais
non,
c'est vrai que et tout d'un coup ces deux enfants qui, en plus c'est par internet, il y en a qui s'appelle Lipellule, l'autre Vampire, ils savent pas trop bien qu'elles agissent, ils se rendent compte qu'ils ont le même âge, ils sont tout jeunes, ils ont 9-10 ans. C'est une très jolie histoire qui vient dans le lot sans étouffer le reste, qui tombe pas comme un cheveu sur la soupe et qui est jolie.
Et qui n'est pas gnangnan. Voilà. Lucille Comeau.
Oui, juste sur la question du point de vue politique, parce qu'elle ne se pose pas vraiment. Néanmoins, quand on y pense, tous ces personnages sont quand même des personnages de bourgeois.
Ah oui.
Et donc, ce que fait Chavez, en fait, c'est ce que fait Chavez au corps bourgeois. Donc, à partir de là, la question du point de vue, bon, je ne vais pas m'avancer plus, mais ça peut, on peut se questionner quand même sur le narrateur.
Il y a quand même la journaliste qui justement va enquêter auprès des pauvres. Ensuite, je suis pas sûr que la mère célibataire soit vraiment très bourgeoise. Mmh. Et le couple, bon,
certes. Enfin, c'est pas le lumpen prolétariat.
Elle est prothésiste oculaire.
On parle pas des invisibles du Venezuela.
Non, voilà.
C'est
autre chose. Enfin, voilà. Ou alors dans un second en parole rapportée. Donc, c'est pas exactement la même chose.
Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans le temps qui nous est imparti sur les derniers jours du commandant d'Alberto Barrera Tichka, publié chez Gallimard, dans une traduction de Robert Amutio. Et nous concluons avec le jeu de la dispute, et c'est Boris Pineau qui ce soir va nous rappeler la question d'abord du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse. Boris ?
La question était, dans quel film Iggy Pop a-t-il fait sa première apparition au cinéma en 1986? Et la réponse était Sid & Nancy d'Alex Cox.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran Le Jardin d'artistes, l'impressionnisme américain. C'est à partir du 15 mai, donc au cinéma. La question est...
Quelle est la seule peintre américaine à avoir exposé avec les impressionnistes à Paris?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions, bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain 19h qui sera consacrée aux séries en compagnie de Lucille Comeau, Florence Colombani et Joseph Ghost. À notre affiche, La Casa des Papels qu'on peut voir sur Netflix, Fierté de Philippe Faucon, disponible sur Arte Plus 7 et en DVD chez Arte Édition, et puis Barry d'Alec Berg et Bill Hader, en ce moment sur OCS City. Non, je sais jamais. OCS City.
OCS.
Allez, OCS.